Un voyage à Singapour pour le président, des célébrations pour la journée internationale du droit des femmes, un influenceur en cellule et une polémique au comité de tourisme de Moréa. Voici les titres de ce journal. Et le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On commence par la politique et ce nouveau voyage officiel.
Oui, on vous parlait hier de Minari Galnon et Teivi Niteï qui avaient défendu leur voyage à Paris. Eliane Tevaïtoua en revient aussi et en parlera à la presse ce midi. Et ce sera bientôt au tour de Moetei Brotherson d'embarquer, mais pas pour la métropole, direction Singapour, pour une visite de 2 semaines, pas moins. Il faut dire que la cité-état asiatique a de quoi intriguer. Ses frontières ne couvrent pas plus des 2/3 de l'île de Tahiti, mais compte plus de 5 millions d'habitants et un PIB 65 fois supérieur à celui de la Polynésie. Et le président du pays a plusieurs fois évoqué cette prospérité ces derniers mois, Charlie René.
Oui, ça avait commencé au Forum des îles du Pacifique de novembre dernier. Moetei Brotherson s'était alors longuement entretenu avec le premier ministre singapourien Vivian Balakrishnan. Sa question, comment un état insulaire, sans ressources naturelles, sans foncier, avec très peu d'eau douce et une population très diverse, a pu devenir une telle puissance commerciale et financière? Le président du pays avait plus tard cité Singapour comme un possible point d'entrée de la Polynésie en Asie, pourquoi pas via Athènes, puis demandé directement à l'Élysée de le laisser accentuer la relation du Fénois avec cette cité-état. On parle d'agro-transformation, d'éducation et de numérique, mais la vraie ligne de mire, Valdemar, ce sont les grands fonds d'investissement souverains singapouriens.
Oui, Singapour en a 2 de ces fonds souverains, GIC, qui gère plus de 80 000 milliards de francs d'actifs, et les réserves de change du pays, et Temasek Holding, qui ne pèse que 30 000 milliards de francs, mais qui est beaucoup plus concentré sur l'investissement extérieur. Mais est-ce que Moetei Brotherson peut revenir avec des contrats signés avec ces géants de la finance, Charlie ?
Difficile à dire, le programme de la visite de 15 jours est pour l'instant plutôt vaporeux. Une série de réunions avec des groupes d'investisseurs est bien évoquée, mais ils ne sont pas nommément cités. Le président doit aussi rencontrer des ministres singapouriens, des chefs d'administration, il doit visiter le port, l'aéroport, parler de numérique chez Google et de data center chez un constructeur spécialisé. Mais c'est bien l'investissement hôtelier qui va tenir l'essentiel de l'agenda. Moetei Brotherson a déjà assuré par le passé pouvoir trouver des partenaires qui n'ont pas besoin de défiscalisation. Reste à connaître leur cible. La rumeur évoque les friches hôtelières de Tahiti, Moorea ou des Raromatei, mais aussi le site du village tahitien, projet à l'arrêt depuis la nouvelle mandature, Valdemar.
Voilà, Singapour, investisseur providentiel et modèle de développement, c'est en tout cas ce que semble croire le gouvernement. On rappelle tout de même que le petit pays, bien que très riche, est aussi très inégalitaire et que son régime est considéré comme une démocratie autoritaire.
Retour à Tahiti, c'est jour de célébration pour les femmes.
Oui, comme chaque 8 mars, on fête la journée internationale des droits des femmes dans le monde. Cette année, au Fénois, ces célébrations ont commencé avec un peu d'avance hier, avec la remise des prix Poerava par l'Union des femmes francophones d'Océanie, présidée par Yermin Tehey. Et cette année, ce sont donc Mayana Bambridge, Jeanne Lecourt-Bouvray, Jeannette Boissin-Léou, Rava Mayari-Sachet, Rosita Opea, Li Rouroa, Françoise Terry-Héroïté-Rayobri et Tetou Aoura-Tipan. On écoute Armel Merceron, porte-parole qui porte l'opération Poerava depuis ses débuts.
On a maintenant 48 portraits de femmes polynésiennes et finalement, on s'aperçoit qu'on ne s'est pas trompé. Chacune dans leur domaine, à leur âge, leur origine, elles apportent une facette de la femme polynésienne. Et surtout, ce qui nous frappe, c'est la richesse de leur parcours qui traverse l'histoire de la Polynésie.
Voilà pour les Poerava, mais ce n'est pas tout pour cette journée internationale des droits des femmes. Pour la première fois, le gouvernement a décidé de mettre en valeur les Marquisiennes, une manière de rendre hommage à Yvonne Katupa, personnalité emblématique de l'archipel décédée en novembre dernier. Les festivités ont démarré et la ministre des Solidarités et du Logement, Minari Galnon, est sur place.
Au niveau du gouvernement, on a voulu aussi valoriser les îles éloignées. Le 8, on va présenter le timbre de mamie Yvonne Katupa. Et puis c'est vraiment en son honneur qu'on va aux Marquises mener ces 3 jours, parce que peut-être que vous allez me demander quel est vraiment le thème de cette année. Eh bien, vous savez, je suis dans le respect déjà des femmes, parce que quand on respecte les femmes, on respecte les enfants, on respecte les familles.
Voilà la ministre Minari Galnon qui est donc aux Marquises pour 3 jours de festivités. Des festivités qui ont aussi lieu à Papeete ce matin dans le hall de l'Assemblée à partir de 9h. Comme chaque année, la direction des Solidarités accueille plusieurs stands. À signaler ce matin également de 8h30 à 10h30, mais à l'université, une rencontre, un café-débat avec 8 femmes exerçant des fonctions à haute responsabilité dans les services de l'État. Notamment la présidente du tribunal de Papeete, Laure Calu, la procureure de la République Solène Bellawar, la directrice de cabinet du Haut-Commissariat, Émilie Amélia Havez ou encore la directrice de la protection civile, Cécile Macarez.
Un peu de lecture maintenant.
Oui, avec la 5e édition de l'économie polynésienne qui est en kiosque depuis quelques jours. On vous parlait récemment du Dixit qui avait sorti son nouvel opus. Eh bien, il s'agit là d'un autre magazine annuel centré sur l'économie, vous vous en doutez, et sur les grandes questions de société. Et elles sont nombreuses, ces questions au sommaire du magazine. La vie chère est-elle une fatalité en Outre-mer ? La crise de l'immobilier a-t-elle une chance de se tasser ? Ou pourquoi tant de Polynésiens ne travaillent pas ? Mais ça n'est pourtant pas un point d'interrogation qui domine la une de cette nouvelle édition, mais bien une vague, celle de Théa Houpeau. Lucie Rabréo, que vous connaissez sur cette antenne, signe un dossier sur les challenges économiques, sociaux et environnementaux des Jeux Olympiques et interroge les acteurs du dossier sur les retombées réelles que l'événement peut avoir au long terme aux Fénois. L'économie polynésienne 5e édition, c'est donc en kiosque et à l'entrée de beaucoup de supermarchés.
Et puis ça a beaucoup fait parler hier, l'arrestation d'un influenceur à l'aéroport.
Oui, pas de collier de fleurs pour David Michigan, comme l'a révélé Tahiti Info. L'influenceur, attendu samedi dans un hôtel de la place pour vanter sa Michigan Academy, eh bien il a été accueilli par la police aux frontières de Tahiti Faa. Une arrestation et un placement en garde à vue à la DTPN qui a été demandé par le parquet de Paris. Pas plus de précisions sur l'objet de l'enquête ni sur l'issue de sa garde à vue, mais le fait est que le Français est sorti libre, toujours sur ordre de Paris, aux environs de 17h à Tahiti. Celui qui se présente comme un acteur et entrepreneur de 35 ans, eh bien David Michigan met en scène ses abdos sculptés et sa barbe fournie dans ses dizaines de vidéos tournées dans des grands espaces avec des femmes en petite tenue. Et l'idée est toujours la même, prouver la réussite de cet influenceur qui vend en ligne des formations sur des sujets divers comme la santé, le développement physique ou mental, le e-commerce, la performance sportive, la nutrition ou encore l'auto-hypnose. Une activité régulièrement décriée hein, puisque le bodybuilder est accusé de profiter de la naïveté ou de l'état de faiblesse de ses clients, mais aussi de faire gonfler artificiellement le nombre de ses followers ou encore de faire financer ses interventions sur les comptes personnels formation. Qu'importe pour le PDG de la Michigan Academy qui cherche en Polynésie comme ailleurs à étendre son réseau. Car le trentenaire forme surtout de futurs coachs hein, qui sont invités, après avoir appris les bases de la vente, à créer leur entreprise et à vendre à leur tour des formations en ligne en échange de commissions. Coïncidence ou pas, la DGAE a communiqué mardi sur les dangers de l'illégalité de la vente pyramidale, ce qui ne devrait pas empêcher David Michigan d'animer samedi son séminaire grand public.
7h07, la présidence du comité de tourisme de Moréa fait polémique.
Oui, l'élection du bureau a eu lieu mercredi soir et cette année, deux groupes étaient en lice, celui de Brenda Tihoni et celui de Moïse Luta. Au terme du scrutin, c'est finalement celui qui est à la tête du comité depuis 8 ans, soit deux mandats, qui a été réélu avec 278 voix sur les 367 votants contre 48 pour la gérante de l'espace culturel Tema Eva de Papeauteuil. Un résultat sans surprise, c'est ce qu'assure le président réélu du comité.
On a un bon résultat, il y a une confiance qui revient, donc tout le monde s'intéresse. On est parti d'un petit groupe avec quelques adhérents au début et aujourd'hui on se retrouve avec plus de 400 membres. Je vous dis que le fruit a bien porté sa réussite. Aujourd'hui, il y a du boulot encore à faire et je suis vraiment content. On voit qu'il y a une jeunesse qui arrive en force et qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie pour nous accompagner, pour que Montréal reste 1000 pilotes.
Voilà, Moïse Luta, au lendemain de son élection, évoque de nombreux projets qu'il aurait soumis au gouvernement, notamment celui en lien avec le belvédère d'Opunohu, qu'il souhaiterait plus sécuritaire, ou encore celui d'un meilleur aménagement du quai de Vaiare. A noter toutefois que la partie adverse lui reproche des irrégularités d'organisation au comité, mais aussi un manque de transparence. C'est des adversaires qui disent avoir entrepris une action en justice auprès du tribunal civil. Elle devrait être audiencée le 11 mars prochain à Papeete.
Et puis tourisme encore pour finir.
Oui, avec les pages d'un magazine de référence du voyage chic, le Condé Nast Traveler, qui a dressé son palmarès des meilleures plages du monde. Et les Sables Roses de Fakarava figurent au 13e rang des 34 sites classés. Un nouveau coup de projecteur sur les toits Motu, déjà retenu comme parmi les meilleurs endroits du monde l'an passé par une autre référence, le magazine Time. Voilà une belle image donc de plage pour terminer ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 7h30 pour la revue de presse d'actualité locale.